Quand on migre, on s'exile, on devient immigrant, on peut imaginer qu'être en situation de handicap, c'est bien plus exigeant encore. Mais heureusement, il y a des groupes qui soutiennent ces personnes, et c'est le cas entre autres de l'Association multiethnique des personnes handicapées. On reçoit son directeur général, Philippe Dulude. Bonjour, Monsieur Dulude.
Bonjour, Monsieur Rassette.
Bonjour. Comment vous pourriez dépeindre la situation des personnes immigrantes au Québec eu égard au handicap?
Lorsqu'on parle d'inclusion en ce moment-là, on parle d'une double marginalisation en ce moment-là.
Mm-hmm.
On peut, comme vous l'avez dit, on peut imaginer à quel point ça peut être marginalisant ou difficile d'être une personne en situation de handicap.
Mm-hmm.
Ça peut être doublement être plus difficile à ce moment-là lorsqu'on est en situation d'immigration.
Ah oui.
On peut par exemple imaginer lorsqu'il y a une incompréhension du français parce que ça ne serait pas la langue première et on a un enfant qui naît avec un handicap,
ouais.
Une incompréhension des mécanismes du système de santé ici.
Et c'est pas difficile hein, d'avoir de la difficulté à s'y retrouver dans la santé au Québec.
Non, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour que ça soit compliqué, c'est vrai. Oui.
Voilà.
Voilà.
Mais donc, le portrait, évidemment, on comprend pour les personnes, c'est un double stigmate, comme diraient certains, mais au Québec, est-ce que ça évolue? Est-ce que ça va mieux? Ça serait quoi votre diagnostic?
J'ai des belles et des mauvaises choses à dire d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on entend et qui est intéressante, c'est certaines personnes immigrantes qui disent « Mon Dieu, on a beaucoup de personnes handicapées au Québec. »
Oui.
Objectivement, statistiquement, c'est tout à fait faux.
Ah bon, ben voilà.
Ce que ça peut refléter, par contre, c'est que lorsqu'on se compare à d'autres pays dans le monde, on peut avantageusement vanter nos programmes d'inclusion.
OK.
Donc, ça, c'est important de le nommer.
Donc, sur l'échelon mondial, on n'est pas si mal.
Bien, c'est ce que j'entends tout au moins. Donc,
okay.
On peut quand même le constater.
Mm-hmm.
Voilà, donc, on peut imaginer certains pays où il n'y a pas nécessairement autant de personnes en chaise roulante ou des stationnements adaptés ou des choses comme ça.
Okay.
Donc, on fait quand même des belles choses. Ça, c'est important de le nommer.
Donc, posons ça d'emblée. Mais maintenant, il existe des ressources comme la vôtre, c'est-à-dire l'Association multiethnique des personnes handicapées. C'est quoi les principaux services que vous offrez aux personnes par votre association?
Bien, étant donné la mission particulière de notre organisation, on est à l'intersection entre le monde de l'immigration et le monde des personnes en situation de handicap.
Mm-hmm.
Nos intervenantes, qui sont très, très dédiées et très dévouées, ont à cœur, dans le fond, de parrainer et d'accompagner, d'une certaine façon, les démarches, la double démarche.
Mm-hmm.
Donc, on peut imaginer quelqu'un qui est en situation de parrainage, mais aussi en situation de handicap et qui a besoin d'un accompagnement précis.
Oui.
Donc, cette expertise-là, on l'a en interne et on essaie de travailler davantage en réseau avec des organismes comme celui de Walter tout à l'heure, même au Québec.
Oui.
Mais davantage.
C'est un organisme partout au Québec dans le cas de Walter, alors que vous, est-ce que vous êtes situé spécifiquement à Montréal ou vous
couvrez? On est
situé
à Montréal.
Okay.
Donc, on refuse personne en théorie, mais le bassin premier avec lequel on travaille, on parle de la grande région de Montréal.
Mm-hmm. Okay.
Il y a des gens de Laval et de Longueuil là, qui ont descendu nos services et on est très conscient aussi qu'on a un rôle de porte-étendard d'une certaine façon sur cette cause-là qui est spécifique pour les personnes immigrantes en situation de handicap, qu'on peut retrouver aussi à Sherbrooke ou en Ottawa, par exemple.
OK, bien. Et donc, vous offrez, j'oserais dire, des services très spécialisés parce que, bon, connaître ce que vivent les personnes qui sont parrainées, hein, pour les gens qui nous écoutent, c'est cette période où vous êtes un peu garanti, j'oserais dire, c'est pas très sympathique, là, mais garanti par un autre citoyen pendant une période de 3 ans. Donc, évidemment, il faut avoir un accompagnement particulier quand on est en situation de handicap aussi, parce qu'il y a des besoins spéciaux, etc., etc.
Oui, ça peut être un exemple. C'est sûr que récemment, on a parlé avec du côté plus spectaculaire de l'afflux de réfugiés syriens, par exemple.
Oui.
Il y en a certains qui ont eu, par exemple, des problématiques liées à la guerre là-bas. Donc, certaines personnes qui ont eu une amputation fait sur le bras, un bon Québécois, à Alep, par exemple, et il arrive ici, puis bon, il a besoin de prothèses et de services particuliers. Donc, on est un peu en deuxième ligne par rapport à cette cohorte de réfugiés-là qui arrive.
Mm-hmm.
Donc, ça fait partie des choses qu'on fait aussi. On fait aussi de l'accompagnement auprès des parents récemment immigrés, mais qui ont un enfant qui développe un handicap de toutes sortes. Donc, on peut imaginer, par exemple, quelqu'un, une couple qui arrive ici, et leur enfant développe un trouble du spectre de l'autisme. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement évident d'être dans une petite communauté puis de se sentir invalidé d'une certaine façon auprès de nos pères.
Mm-hmm.
Donc, on essaie de mettre en commun les ressources et les personnes avec des gens qui vivent la même situation de d'autres communautés culturelles.
Donc, vous êtes vraiment un mailleur. Vous faites rencontrer les gens dans cette intersection toute particulière qui est celle du handicap et de l'immigration.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on essaie davantage de se rapprocher des autres organismes en immigration pour tranquillement préparer notre clientèle à aller vers d'autres ressources plus spécialisées.
Donc, OK, bien. Parce qu'il y a des questions quand même importantes. Là, vous dites qu'il y a des gens qui accompagnent, qui informent, vous aidez aussi à remplir les formulaires là, qui sont souvent compliqués, auxquels les gens sont exposés pour la première fois. Mais il y a la question de la langue dont vous parliez plus tôt. Comment une personne sourde qui est issue de l'immigration, avec des bonnes chances de moins bien parler la LSQ ou le français, comment vous faites? Est-ce que vous connaissez des interprètes dans d'autres langues?
Oui, évidemment, on a un réseau, mais ça, c'est un cas intéressant quand même. C'est sûr que plus le cas est complexe, plus il est à sa place chez nous d'une certaine façon. Mais,
ah oui?
Oui, je me souviens d'un exemple, par exemple, d'une famille qui était issue de l'Extrême-Orient et donc qui parrainait une mère en situation d'handicap. Mm-hmm. Et les enfants étaient sourds. Et donc, ils ne parlaient pas nécessairement la langue des sourds du Québec. Et donc, ils avaient besoin d'un interprète pour traduire cette question-là. Et donc, la mère parlait... non, c'était Dari, je crois, de mémoire. Mm-hmm. Et donc, avoir une conversation, ça peut être très, très long. Donc,
ouais.
Ça fait partie des contraintes avec lesquelles on travaille.
OK. Ben écoutez, on entend bien que vous êtes un solutionneur d'inclusion, disons, à l'échelle individuelle, mais vous faites aussi des activités de groupe. Comment vous faites pour briser l'isolement, là,
absolument.
Faire des rencontres de groupe aussi?
Excuse-moi, Benoît, mais je trouve important de dire qu'on travaille davantage avec la famille, parce qu'on peut imaginer aussi que notre clientèle n'est pas nécessairement la personne en situation d'handicap, mais ça peut être la mère, l'épouse, parce qu'on travaille beaucoup avec des femmes, évidemment, mais qui pourrait être la prochaine aidante principale. Mais évidemment, oui, on a des activités de groupe ici, donc on tend à briser l'isolement qui pourrait être exacerbé dans certaines communautés. Et donc, de mettre en contact des gens pour briser d'abord l'isolement, puis que les amener à développer un groupe de soutien informel.
Mm-hmm.
Oui, donc on a une certaine expertise qu'on a développée avec les années.
Puis une expertise, puis un milieu de vie aussi, j'imagine, où les gens se rallient ensemble, au-delà des communautés culturelles, hein, parce que ça, on parle souvent que c'est une barrière... Quand on tente de favoriser l'inclusion, souvent les gens se regroupent par communauté d'origine. Vous arrivez à faire rencontrer les gens, à faire traverser la solidarité au-delà de toutes les communautés culturelles?
On doit y arriver, Benoît, parce que c'est peut-être une fausse bonne idée de présumer qu'ils sont mieux référés systématiquement dans leur communauté. Quand ça va bien, ça va bien.
Mm-hmm.
Et j'aime pas faire une généralisation sur cette question-là, mais il y a peut-être certaines personnes en situation d'handicap qui ont vécu de l'abus dans leur communauté et donc, par exemple, arriveraient au CLSC et sont référés vers cette communauté-là et l'abus est perpétué, par exemple.
Ah ouais. Parce que vous intervenez aussi quand il y a des situations de discrimination. Là. Vous appuyez dans ces cas-là aussi.
Définitivement. Donc, d'abord à travailler avec l'inclusion, mais oui. Et on peut imaginer aussi que certaines personnes qui ont certaines réticences par rapport au milieu institutionnel parce qu'elles auraient aussi vécu de l'abus dans le milieu institutionnel dans leur pays d'origine. Donc, c'est à ce moment-là où on agit un petit peu comme un médiateur culturel d'une certaine façon entre la personne qui est en besoin et la structure d'accueil qui n'est peut-être pas toujours adéquate d'une certaine façon.
Écoutez, vous le ratissez large. Merci d'être là, en tout cas. J'imagine que dans la dernière année et demie, là où vous avez été nouvellement directeur général et aussi où vous avez sûrement été saisi suite à l'immigration ou l'accueil de réfugiés syriens, j'imagine que ça a été du sport un peu?
Ah, c'est un beau défi. J'ai vraiment un privilège de diriger cet organisme-là. Donc, oui, effectivement, c'est un plaisir d'être avec vous puis de discuter.
Oui.
Donc, on se remet sur la map, entre guillemets, d'une certaine façon. On avait des devoirs à faire puis d'identifier quelle était notre mission, quelles étaient nos valeurs, quelles sont nos approches. Parce qu'on ne peut pas avoir un organisme ayant une mission aussi pointue que ça sans développer une expertise de pointe, pour me répéter.
Ben écoutez, c'est clair en tout cas. Écoutez, on peut retrouver plus d'informations que on soit un proche aidant, une proche aidante, qu'on soit quelqu'un qui connaît une personne issue d'immigration, qui vit avec le handicap. On peut tout retrouver l'information sur ameph.com, si je comprends bien.
Oui, ameph.com. Si vous permettez, Benoît, j'aimerais dire qu'on organise une collecte de sang ce jeudi.
Ah oui?
Oui, donc de 14h à 19h30. Ça nous ferait grandement plaisir de vous recevoir.
Ah, mon Dieu! Donc, répétez-nous ça. Donc, c'est une collecte de sang qui s'adresse...
À toute personne qui a envie de sauver une vie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que le sang des personnes issues des communautés culturelles est particulièrement recherché par Emma Québec, avec qui on est associé.
OK. Et
donc, ce serait possible de venir au 6462 Boulevard Saint-Laurent, mais simplement appeler.
OK.
Réservez votre place.
Ben écoutez, merci beaucoup. Puis on retrouve cette information-là sur ameph.com aussi, j'imagine.
Absolument.
OK.
Oui.
Donc, on met les liens sur notre page. Merci beaucoup, Philippe Duluth, directeur général de l'AMEF.
Un vrai plaisir. Au revoir.
Au revoir.